Itinérance, une création radiophonique produite par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Donc le corps reste un problème de toute façon. Dans cette société, je trouve plus que dans les années...
L'aspect, le volume, la matière, le message.
C'est
aussi,
et un exercice et aussi un sujet effectivement qui existe depuis que la peinture existe à mon avis.
Je cherche la nudité à travers les âges. Donc quand je vois un musée, souvent je prends comme thème le nu.
Apollon et Marsyas, emblème de mosaïque, période romaine.
C'est une œuvre qui est datée du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, qui était sans doute destinée à décorer une belle villa romaine de notre région. Et la scène, en fait, représente plusieurs personnages. Vous avez à droite, assis sur son trône, le dieu Apollon, qui est le dieu des arts et de la musique. Apollon a le coude gauche posé sur une lyre, qui est son instrument de prédilection. Il vient de remporter une joute musicale contre le satyre Marsyas, qui est au milieu de la scène, qui lui a joué le même morceau que la divinité, mais avec une flûte. Et comme le vaincu devait se soumettre au vainqueur, Apollon condamne à mort Marsyas, qui va être écorché vif.
Mark Sauer, directeur adjoint des musées d'Agde.
Ce qui est très très impressionnant sur cet emblème, en fait, c'est à la fois les couleurs, mais aussi la lumière. On voit la lumière à la fois sur le corps d'Apollon. Alors Apollon n'est pas dénudé, son torse est nu, mais on voit la lumière frapper son corps et on voit surtout la lumière frapper la musculature du dieu. On voit les muscles saillants des cuisses, notamment la cuisse de la jambe gauche de Marsyas qui est à terre. Et alors, souvent, on a des personnages dans l'Antiquité qui sont représentés, héroïsés dans ce qu'on appelle la nudité héroïque.
Oui, alors, on a des corps assez stylisés, mais qui mettent l'accent, donc, sur des pectoraux développés, une taille fine.
Magali Ramon-Ribaud, docteur en archéologie pour la période antique, musée des moulages, Montpellier.
Une posture athlétique, voire militaire, hein, puisque... Voilà, on s'entraîne au gymnase pour s'entraîner à la guerre, donc on entraîne son corps, il faut que les corps soient musclés, puisque chez les Grecs aussi, le corps est le reflet de l'âme.
Il est nu parce que Marsyas est un satyre et que c'est une créature mi-homme, mi-animal, qui a un côté un peu bestial. Donc là, c'est la victoire du raffinement sur le corps. Et des dieux sur le côté bestial, et qui est renforcé par la nudité de Marsyas.
Alors devant nous, on observe 9 reliefs sculptés qui représentent 9 des travaux d'Hercule. Il y en avait 12 à la base, mais seulement 9 sont présentés au musée parce que les autres n'ont pas été découverts en entier, donc on ne peut pas les interpréter comme ceci.
Les travaux d'Hercule. Sculpture de la fin du 3e siècle, période romaine, provenant de la villa romaine de Chirigan.
Hercule est représenté dans ses travaux nus, face à des monstres ou à des personnages qui sont eux habillés. Donc le héros est nu et les personnages qu'il affronte lorsqu'ils sont humains, on va dire, ils sont habillés. Donc par exemple, on peut prendre celui d'Hercule combattant le géant Gérion. Hercule est représenté de 3/4. Il est en train d'asséner un coup fatal à un géant qui est à genoux et qui a 3 têtes. Ce géant donc est à genoux et plus petit que Hercule et il est représenté habillé, on va dire, à la romaine avec une cuirasse et une sorte de jupe qui est décorée avec ce qu'on appelle des ptériges, des petits médaillons.
Mathieu Scapin, médiateur culturel au musée Saint-Raymond, Toulouse.
Alors dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que la nudité ne va pas de soi dans l'Antiquité gréco-romaine. On ne se promène pas nu dans la rue, contrairement à ce que les statues peuvent laisser penser. Les Romains sont hyper pudiques et il y a essentiellement 2 endroits où on va les retrouver nus, comme nous aujourd'hui dans la salle de bain. et aussi au sport. Voilà. Alors pourquoi se représenter les héros, le héros Hercule nu? Pour la bonne et simple raison que c'est un personnage auquel on doit s'identifier et qui doit représenter en partie le citoyen, c'est-à-dire un esprit bien fait dans un corps bien fait. Voilà. Il y a aussi une raison pour laquelle on va le représenter nu, c'est que lorsqu'il s'agit d'Hercule, il a des pouvoirs incroyables, donc il ne vole pas, il ne lance pas des rayons laser avec ses yeux, mais il est hyper fort. Et donc pour représenter la force, on va montrer les muscles. Donc en montrant les muscles, on montre aussi ce côté puissant.
Le nu masculin, c'est l'affirmation de la virilité, mais c'est aussi l'admiration pour ce corps masculin. Donc les hommes grecs admirent, aiment le corps masculin. Sur les vases grecs, on a des inscriptions de kalos, donc le kalos c'est la beauté, et on a des inscriptions comme ça qui nous disent « un tel est beau ». Donc ce sont des inscriptions complètement déconnectées des scènes, mais qui nous disent le jeune homme à la mode à l'époque, et ça renvoie à la jeunesse. Donc ces corps masculins sont idéalisés, ils sont jeunes, ils sont musclés, ils sont gracieux, donc ils insistent aussi beaucoup sur la grâce.
Ce qui va aller de pair avec la représentation du corps et de la nudité, c'est la volonté de rechercher, de créer un vrai canon de beauté, c'est-à-dire une beauté idéale, ce qui va donner lieu à des recherches pratiquement scientifiques, vous voyez, sur un travail de proportion notamment.
Pauline Chaudonneret, médiatrice au musée des moulages, Montpellier.
Et en fait, on a un ratio d'un septième, c'est-à-dire que la tête doit rentrer sept fois dans le corps, la main sept fois dans le bras, le pied sept fois dans la jambe, etc. Et c'était censé être une valeur universelle qui vous crée le corps parfait. Donc ça nous crée un personnage qui est plutôt trapu, pas très élancé, voilà, il n'est pas spécialement grand, il est assez massif, avec une musculature très, très prononcée. Et c'est vraiment quelque chose qui est typique de cette époque, parce qu'on va voir qu'un petit peu plus tard, à la période hellénistique, autour du IVe siècle, on va passer à un ratio d'un huitième. Donc les corps vont justement s'affiner, s'élancer et devenir beaucoup moins massifs, perdre ce côté très carré qu'il a.
Alexandre le Grand, dit l'Éphèbe d'Agde, sculpture en bronze, période grecque hellénistique.
La statue fait aujourd'hui 1,33 m sans les pieds. Et elle est dans cette nudité, puisque voilà, Alexandre porte un manteau, mais qui ne le recouvre pas entièrement. Hein, son sexe est apparent. Alors souvent on dit oui, mais comment se fait-il que les sexes masculins sur les statues antiques soient petits ? Mais en fait, il faut savoir que les Romains estimaient que ce qui était petit était décent, c'est-à-dire que on doit montrer des corps avec une sexualité qui ne doit pas être exubérante, qui ne doit pas être trop voyante, parce que sinon c'est quelque chose d'indécent, ça veut dire qu'on se rapproche des créatures bestiales comme sont les satyres, à savoir Marsyas ou d'autres, et donc on doit rester dans des sexes aux mesures assez petites, parce que c'est quelque chose de raisonnable et d'élégant. Voilà, ça doit être élégant, donc ça ne doit pas être gros.
L'Aphrodite de Cnide, sculpture en marbre de Praxitèle, période grecque classique.
On en arrive donc à ce premier nu de la sculpture grecque par Praxitèle. On est donc au IVe siècle, vers 360 avant. Donc la femme est entièrement dénudée. Praxitèle nous montre la déesse Aphrodite sans aucun vêtement. Et au début, ça fait scandale. Donc il en fait deux, en fait c'est une commande des habitants de Kos, qui est une petite île. Il fait une Vénus habillée, une Vénus nue. Les habitants de Kos prennent la Vénus habillée parce qu'ils la jugent beaucoup plus conforme évidemment à leurs attentes. Et ce sont les habitants de Cnide qui récupèrent la déesse nue pour en faire une statue de culte. Donc vous imaginez un peu, c'est quelque chose d'incroyable à l'époque, donc scandale. Et puis très vite, cette statue va attirer les foules. Donc ils vont voir défiler des visiteurs pour venir admirer cette statue qui était mise dans un temple rond et qui avait plusieurs ouvertures. Alors les textes nous disent une porte devant, une porte derrière, d'autres nous disent qu'elle était visible absolument de partout pour qu'on puisse admirer sa nudité complète. Et là, donc, le corps féminin est bien sûr lui aussi idéalisé comme le corps masculin, hein, mais cette Aphrodite pudique. On a Aphrodite qui sort du bain, qui cache son pubis. Donc cette façon de concevoir la femme, eh bien, va perdurer. Alors Praxitèle, on ne sait pas trop pourquoi cette Aphrodite cache son sexe. Est-ce que c'est de la honte, de la pudeur? En tout cas, elle met vraiment l'accent sur son activité sexuelle. Ou est-ce qu'elle montre au contraire cet endroit en tant que déesse de l'amour, de la fertilité? Peut-être qu'au contraire, elle le désigne. Mais en tout cas, ce qu'on en fait derrière, c'est que la femme doit être pudique, doit être un peu honteuse de sa sexualité. Et donc, on va avoir cette posture qui va durer, époque moderne et même contemporaine, de cette femme nue qui se cache un peu, qui ne veut pas être vue, qui est dans la vulnérabilité, en fait, de son sexe.
La nudité dans l'art à travers les âges. Projet réalisé par RPH Sud en partenariat avec Radio Lodève, Radio Présence Toulouse, CFM Montauban et les musées d'Agde. Musique de Marc Callas. Une production de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.